10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour Emmanuel Vargon.
Bonjour Mickaël Darmon.
Denis Tillignac, écrivain, ami intime de Jacques Chirac, s'est éteint hier. Un an, jour pour jour, après le décès de l'ancien président de la République. En 2012, il écrivait ceci. À l'heure des bilans, tu regretteras moins tes égarements que tes renoncements dictés par la prudence ou par la peur. Se tromper ou se renier, c'est toujours un dilemme quand on est au pouvoir.
Au-delà de saluer la mémoire de Denis Tillignac, grand compagnon de Jacques Chirac, amoureux de la France éternelle, moi je voudrais dire qu'on n'est pas à un moment où il faut opposer le courage et la prudence. Je pense qu'on a besoin de courage, que c'est une vertu cardinale en politique, mais le côté sabre au clair, plateau des mille vaches, hussard, c'est pas ma conception de l'action, c'est trop masculin, il y a trop de pots cassés.
Alors on la redoutait, elle est là. La France fait face à cette nouvelle vague de Covid-19. Elle change toutes les perspectives. Les entreprises craignent que les nouvelles restrictions freinent la reprise. Et alors qu'une partie des Français semble prête à adopter des comportements encore plus rigoureux contre la maladie, eh bien, ils grincent des dents quand même et font de moins en moins confiance au gouvernement pour résoudre la crise. Il faut reconnaître aussi qu'il est très difficile de gouverner par ces temps où les multiples tempêtes se précipitent sur le pays. Mais une fois que cela est dit, il faut apporter des réponses aux Français, cela vous incombe. Emmanuel Vargon, puisque vous appartenez au gouvernement, votre secteur c'est le logement, baromètre de l'activité économique, creuset des transformations. C'est peut-être aussi un des seuls volets qui concerne directement les ménages dans un plan de relance qui semble malade du Covid. Alors pour vous interroger avec moi dans ce grand rendez-vous, je salue Cécile Cornudet des Échos, Damien Fleurot de CNews. Mais tout d'abord on écoute, on regarde la colère des Marseillais.
Je comprends la colère des commerçants, je comprends la colère des professionnels. Voilà, on les a poussés à bout, et bien aujourd'hui ils sont là, ils le montrent, ils ont raison.
On ne veut pas être révolution, on ne veut pas être les uns contre les autres, on veut se débarrasser de ce Covid.
Emmanuel Vargon connaît la tension ancestrale entre Paris et Marseille, mais est-ce qu'on n'est pas là dans une crise peut-être plus générale d'acceptation sociale des contraintes sanitaires?
Mais moi je reprendrai les mots de Martine Vassal, on veut se débarrasser de ce Covid. On en a tous assez, on a tous envie de retrouver la maîtrise de nos vies. Mais le virus, il continue à être là. Il continue à circuler. Et du coup, nous avons besoin d'ajuster en permanence nos mesures pour protéger la santé des Français, tout en permettant le plus possible le maintien de la vie sociale et de la vie économique. Et c'est ce qu'on fait. Donc ces mesures, ce sont bien sûr des entraves à la liberté individuelle. Porter un masque, c'est une obligation. Les gestes barrières, c'est une obligation. Les fermetures anticipées plus tôt des restaurants et des bars dans les zones où le virus circule plus. Les fermetures complètes à Aix et à Marseille. Bien sûr, ce sont des obligations difficiles. Mais nous avons besoin d'être responsables collectivement. Et Olivier Véran est allé à Marseille avec Alain Griset pour discuter avec les élus.
Il a tenté de calmer la colère de ces élus.
Mais c'est surtout que les décisions ont été ajustées. La fermeture qui devait être samedi soir sera finalement ce soir. Elle est prévue pour 7 jours avec une clause de revoyure qui va arriver plus vite. Et puis économiquement, il y a des mesures complémentaires pour les restaurateurs, pour les bars,
pour les
plus d'argent pour que la perte de chiffre d'affaires puisse être compensée.
Donc vous diriez que la grogne de Marseille aujourd'hui est calmée parce que Samia Ghali, encore il y a 2 jours, appelait les restaurateurs à enfreindre les nouvelles règles. Est-ce que ça va mieux ou est-ce qu'il va falloir à un moment envoyer la police pour dire aux restaurateurs non, vous fermez puisqu'on vous a dit
parce qu'elle voulait qu'on envoie l'armée dans les quartiers, Samia Ghali. Donc là, est-ce qu'il faut envoyer
la police? Moi, je crois que la discussion a eu lieu et que la discussion qui a eu lieu avec Olivier Véran et avec Alain Griset a permis, en tout cas partiellement, de calmer la colère ou l'énervement. Je comprends que ce soit très difficile. Vous êtes restaurateur, vous êtes obligé de refermer. C'est pas pour très longtemps. Ça sera compensé, mais on a une responsabilité collective
face
au virus.
Face à ceux qui, lundi, sont ouverts.
D'abord, on verra. C'est pas sûr qu'on aura beaucoup de restaurants qui sont ouverts. Moi, je vois un port du masque généralisé dans le métro, dans la rue. Les gens portent le masque, ils l'acceptent. Donc, peut-être qu'il y aura des cas particuliers.
Pas à Marseille.
À Paris, pas que à Paris d'ailleurs. Et à Marseille, il y a aussi un appel des médecins, de la PHM, des hôpitaux de Marseille, des réanimateurs qui disent « attention, le nombre de patients augmente ». Donc je ne crois pas qu'il faille opposer les restaurateurs aux soignants. Je crois qu'il faut que chacun comprenne qu'on vit une période inédite. On vit une période qu'on n'a jamais vécue Et ce que nous devons faire tous ensemble, c'est être solidaires. Solidaires entre les professions, solidaires entre les générations, solidaires entre les régions de France. Et j'entendais dans le journal le fait qu'il y aura peut-être de nouveaux transferts sanitaires pour soulager les hôpitaux de Lyon ou de Marseille vers Paris. On a eu des transferts dans l'autre sens pendant le confinement pour soulager le Grand Est et l'Île-de-France. C'est cette solidarité qui nous sauve.
Alors il y a l'appel effectivement à la responsabilité, hein, Emmanuel Wargon, mais il y a aussi l'appel à la crainte, quelque part à la peur, à l'avertissement. Le gouvernement le dit depuis plusieurs jours, on fait tout pour éviter un nouveau reconfinement total. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il n'y en aura pas à la fin, puisque on mais sent c'est... déjà que la situation sanitaire peut-être amène vers ce reconfinement.
Mais ce n'est pas un appel à la peur. Je pense qu'il faut faire attention. On n'est pas dans un gouvernement avec un gouvernement qui joue sur les peurs. On
c'est
est avec un gouvernement responsable qui partage la situation épidémiologique. Et cette situation de l'épidémie, elle change régulièrement. Et qui dit voilà où nous en sommes et voilà ce que nous voulons faire. Voilà ce que nous faisons et voilà pourquoi. Nous voulons tous, le gouvernement, les acteurs économiques, les Français, les jeunes, les personnes âgées, nous voulons tous éviter le reconfinement. Personne n'a envie d'aller au reconfinement. Est-ce que c'est possible? C'est toute l'action du gouvernement aujourd'hui. Est-ce que ça suffira? Ben, ça dépend de vous, de moi, de tout le monde.
Donc ça reste une incertitude. On n'est pas à l'abri d'un reconfinement total qui serait au fond la seule mesure.
Mais on n'est à l'abri de rien parce que personne ne sait dire comment l'épidémie va évoluer.
Cécile Cornudet.
C'est ce qui s'est passé en Israël d'ailleurs. Pendant quelques temps, ils ont essayé des mesures très ciblées qui n'ont pas marché, qui n'ont pas été acceptées pour finalement qu'on arrive à un reconfinement total au moment des fêtes.
Et chaque pays, on voit bien, chaque pays cherche sa propre trajectoire, ses propres décisions en fonction de la situation de l'épidémie et de la situation à l'intérieur du pays. Israël est le seul pays, à ma connaissance, qui reconfine. En Angleterre, ils ferment les pubs. Dans certains pays, on reconfine localement. Nous, notre trajectoire, c'est gestes barrières au maximum, fermeture des lieux qui sont les lieux les plus à risque, dans les endroits les plus à risque, avec comme volonté de ne pas reconfiner.
Et Esther Duflo, la prix Nobel, qui dit qu'il faudrait reconfiner avant Noël pour qu'on puisse passer des fêtes de Noël en famille.
Esther Duflo, elle est prix Nobel d'économie, mais elle n'est pas épidémiologiste, donc elle n'est pas médecin, ce n'est pas elle qui a en charge la situation sanitaire du pays.
Oui, mais finalement, elle pose la question du reconfinement temporaire dans le temps, comme il peut y avoir des reconfinements localisés, territorialisés.
Mais je pense que ce n'est pas maintenant qu'on va décider d'un éventuel reconfinement. Ça n'est pas à l'ordre du jour.
Préparer les esprits, ça peut être prévoir.
Bien sûr, dire que ce n'est pas possible de l'exclure complètement, c'est une chose. Annoncer un reconfinement à une date donnée, c'est une autre chose. On n'en est pas là.
Et peut-on dire qu'il y a finalement un changement de doctrine à avoir? Parce que quand il y a des mesures difficiles à prendre, on l'a vu d'ailleurs à Marseille, est-ce que ce sont les autorités locales en lien avec le préfet qui doivent les annoncer?
Il faut concerter, il faut travailler ensemble, concerter entre l'État et les élus locaux. C'est notre méthode, c'est notre volonté, les préfets avec les maires. Mais après, à un moment, il y a une décision à prendre en responsabilité. Et cette décision en responsabilité, en dernier ressort, elle appartient à l'État. Si elle peut être partagée, c'est mieux. Et d'ailleurs, la discussion qui a eu lieu à Marseille s'est finalement plutôt mieux passée qu'après les premières prises de parole. Et moi, j'entendais Renaud Muselier dire récemment, en fait, les alertes que j'ai de la part de l'hôpital à Marseille me montrent qu'il faut aussi être prudent. Donc les discussions se sont nouées. In fine, c'est la responsabilité du Premier ministre, du ministre de la Santé, du gouvernement, de prendre les mesures. Et cette responsabilité, il faut qu'on l'assume.
Alors, c'est intéressant parce que vous venez de citer effectivement des hautes autorités de l'État, mais vous êtes arrêté au président de la République qui, lui, avait scénographié les précédentes étapes, notamment au printemps, où à chaque fois que l'on passait un moment, c'était le président qui l'expliquait aux Français. Pourquoi cette fois-ci, au fond, selon vous, il ne le fait pas ou n'a-t-il pas besoin de le faire?
D'abord, le président de la République préside les conseils de défense et c'est en conseil de défense sanitaire que les décisions sont discutées puis prises. Et après, c'est le chef du gouvernement qui gouverne, donc c'est lui qui a fait les annonces, lui ou le ministre de la Santé, ça dépend des moments.
À la rentrée, vous disiez beaucoup, c'est l'économie maintenant devant le sanitaire. Là, on voit que c'est au moins, en tout cas, à égalité. On ne peut plus mettre l'économie entièrement devant le sanitaire. Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour le plan de relance? C'était quand même le grand événement de la rentrée. Est-ce que cette urgence sanitaire ne va pas l'empêcher de décoller, voire va siphonner un peu les fonds qui devaient être consacrés à l'investissement?
En fait, l'économie et le sanitaire, c'est intriqué. On ne peut pas avoir une économie qui marche avec un pays dans lequel il y a des risques sanitaires trop élevés. Et on ne peut pas avoir un système de santé qui marche si l'économie s'est totalement effondrée. Donc, c'est finalement, les deux sont totalement emmêlés. Après, le plan de relance soutient beaucoup de secteurs économiques de façon transversale. Notre objectif de base dans le plan de relance, c'est de soutenir l'emploi. L'emploi pour que on n'ait pas de perte de salaire, on n'ait pas de perte de revenus, que les Français ne se retrouvent pas tous au chômage. Donc c'est à la fois la production, mais c'est aussi l'emploi. On a des secteurs qui sont finalement moins touchés que ce qu'on craignait en matière de crise économique. Je pense par exemple au bâtiment qui finalement s'en sort pas si mal.
On va en parler, oui.
On a aussi des régions dans lesquelles le virus circule moins, heureusement, et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc c'est important de continuer à soutenir l'économie tout en protégeant la santé de la population.
Comment faire pour que les fonds là, qui vont être consacrés pour indemniser les restaurateurs à Marseille, par exemple, ne finissent pas par gréver complètement ce qui était consacré au plan de relance?
À ce stade, le plan de relance, c'est 100 milliards. Et les enveloppes de soutien aux restaurateurs, là où on ferme, ça se compte plutôt en millions ou en dizaines de millions. Donc, on n'est pas sur les mêmes échelles. Mais le plan de relance marche. Je pense, par exemple, à l'emploi des jeunes et à l'apprentissage. On a plutôt eu des bons chiffres. Donc alors qu'on
vous
avait très peur...
L'argent est arrivé parce que l'Europe bloque encore. Pologne, et, entre autres, et la Hongrie bloquent les fonds.
Ce n'est pas un problème de trésorerie parce que vous savez que l'État français avance les fonds et après le financement par l'Europe, ça viendra refinancer des dépenses qu'on fait. Les primes pour les embauches de jeunes ou d'apprentis, elles sont déjà en place. En fait, il y a beaucoup de mesures qui sont déjà en place. Et on va avoir un apprentissage du même ordre que l'année dernière avant crise. Ça, c'est relativement rassurant.
Est-ce que le bâtiment va et est-ce que tout va? On se retrouve avec Emmanuel Wargon.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Emmanuel Wargon, ministre délégué au logement. On écoute, on regarde.
C'est très bien de penser aux gens qui n'ont pas les moyens, c'est même important. Mais les gens de la classe moyenne, si on les oublie, on n'arrivera pas là où on veut aller.
Emmanuel Wargon, vous avez annoncé 100 milliards de relance. Mais c'est énorme, 100 milliards de relance. Mais c'est comme si c'était déjà du passé, que ça n'avait pas parlé aux Français. Pourquoi vous n'avez pas décidé d'emblée de mettre en avant des projets très précis qui, eux, parleraient aux Français?
Mais c'est ce que je fais, moi, dans mon secteur, hein, dans le secteur du logement. Dans les 100 milliards, il y a 7 milliards pour le logement. Et ce sont des milliards qu'on va voir concrètement parce que c'est de la vraie rénovation de vrais bâtiments. À la fois des aides aux personnes, aux ménages, à vous,
surtout
à moi.
Surtout des aides aux bâtiments publics.
Et des aides aux bâtiments publics. Mais quand vous rénovez une école, bah, ça se voit. Les enfants que vous amenez à l'école le matin, en hiver, ils ont moins froid toute la journée. Et en été, ils étouffent moins. Donc le chantier de l'école, très vite, vous en voyez les bénéfices. Et puis pour les personnes, c'est ce qui a été dit dans le bout de reportage que vous avez passé, on va aider tout le monde. On va aider tous les ménages, quel que soit leur revenu, à passer à l'acte de rénovation. Et ça aussi, c'est très concret et moi, j'en suis fière.
Comment vous allez faire? Puisque effectivement, il y a actuellement des aides directes, mais dont on ne connaît pas la manière dont elles sont réparties. Est-ce que c'est pour tout le monde maintenant?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour que les gens comprennent vraiment comment ça va se passer concrètement?
Les aides qu'on met en place, qui seront, qu'on pourra obtenir dès les devis signés à compter du 1er octobre, elles vont concerner tous les Français. Et elles les concernent en fonction de leurs revenus. En fait, on va diviser, si je peux dire, répartir les Français plutôt, entre quatre catégories, des plus aisés aux moins aisés. Les plus aisés pourront être aidés à hauteur de 40% de leurs travaux maximum. Et puis la deuxième catégorie, 60%. Les revenus intermédiaires 75% et les personnes les plus modestes 90%. Ça veut dire qu'on pourra aller jusqu'à financer 90% d'un chantier de rénovation pour les plus modestes, 40% pour les plus aisés.
Et ça, ce sont des aides directes qui arriveront sur les comptes en banque ou il faut attendre la fin des travaux ou de faire la feuille d'impôt?
Ce sont des aides qui arrivent en partie en réduction de facture. Donc l'artisan a une facture, mettons que sans aide, le projet de rénovation globale, il coûte 40 000 euros. Et vous avez déjà, par exemple, 15 000 euros de réduction de facture. Je pense à une famille qui habite, par exemple, la Bretagne, le Morbihan, deux parents, un enfant, un projet de rénovation globale, 40 000 euros de travaux. Il y aura à peu près 15 000 euros de réduction de facture. Et le reste, c'est une aide qu'on demande sur Internet et qu'on a dès la fin des travaux. On peut même demander une avance si on en a besoin. Et avec tout ça, pour cette famille-là, on sera à un peu plus de 20 000 euros d'aide. Donc c'est vraiment beaucoup.
Et ce sont des rénovations, des travaux qui seront ciblés, qui doivent concerner l'amélioration, on va dire, environnementale, écologique, ou c'est n'importe quel type de travaux ?
Alors ce sont pour des travaux de rénovation énergétique, c'est-à-dire isolation, changement de chaudière, comble, ventilation. Mais c'est tout type de travaux. Donc si vous faites juste la chaudière, ça marche. Si vous faites la chaudière et les murs, ça marche. Et si vous faites globalement toute la maison, ça marche. Après, les travaux d'agrandissement, d'embellissement, ceux-là ne sont pas aidés par l'État, c'est normal.
Damien Fleurot.
Oui, Emmanuel Vargon, on vous entend souvent, vous enfin, et vos collègues du gouvernement, dire on va en finir grâce à ces dispositifs, notamment avec les passoires thermiques. Mm-hmm. Ça fait des années que l'on entend ça. Est-ce que ce pass rénove à cette ambition-là, est-ce que vous avez des objectifs que vous pouvez avancer aujourd'hui ?
Oui, on a l'ambition d'attaquer sérieusement les passoires thermiques. Les passoires thermiques, ce sont ces vieux bâtiments en France, que ce soit des maisons, des immeubles ou d'ailleurs des bâtiments publics ou privés, qui laissent passer le froid l'hiver et la chaleur l'été. On ne savait pas très bien combien on en avait en France, donc on a commencé par refaire une enquête un peu solide. Elle est sortie il y a 2 mois et elle dit qu'en gros, on a à peu près 4,8 millions de passoires thermiques en France, c'est-à-dire à peu près un peu plus de 15% des logements. Et on va cibler les aides sur ces passoires thermiques avec un bonus supplémentaire. Donc typiquement, vous avez une aide pour faire des travaux, quel que soit l'état de votre appartement ou de votre maison. Mais si c'est une passoire thermique, vous aurez de l'argent en plus, un bonus de 1500 euros, justement pour inciter à en sortir. Et comme les passoires thermiques, elles sont souvent chez les bailleurs, c'est-à-dire pour des logements qui ne sont pas occupés par les propriétaires, mais qui sont loués, on ouvre les aides aux bailleurs. Parce que c'était, je pense, l'une des grandes limites du système précédent. On vous aidait quand vous étiez propriétaire et que vous occupiez votre maison, votre appartement, mais il n'y avait aucune aide pour ceux qui louent. Et évidemment, quand vous louez, c'est vous qui payez les travaux et puis c'est le locataire qui a les économies d'énergie, les économies sur la facture, donc il n'y a vraiment aucune incitation. Là, on ouvre les aides aux propriétaires qui louent et je pense que ça sera très utile et ça peut générer un déclenchement de travaux important.
Cécile Cornudet.
Cet accent mis sur la prime
Ma prime rénov,
voilà. C'est aussi pour faire taire un peu cette critique sur le plan de relance qui n'aiderait que les entreprises et pas tellement les ménages via le pouvoir d'achat comme en Allemagne par exemple.
Il y a une partie significative du plan de relance qui aide l'emploi. Et en aidant l'emploi, on aide les ménages parce qu'on maintient par définition les revenus et le pouvoir d'achat. Les aides à l'embauche des jeunes, les aides à l'apprentissage, le financement du chômage partiel de longue durée. Il n'y a pas de question pour savoir si on aide les entreprises ou si on aide les personnes. Parce qu'en fait, on aide les entreprises à garder les personnes. Et donc, on aide les Français à garder leurs revenus.
C'est de l'offre, pas de la demande.
C'est à la frontière des deux, en réalité. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres aides qui ont commencé avant. Il y a eu des primes versées par les caisses d'allocation familiale aux ménages les plus modestes. Donc, je crois que notre plan de relance, il est équilibré avec un angle très fort qu'on assume, l'emploi d'un côté et la transition écologique de l'autre.
Mais est-ce qu'au fond, ce plan de relance, il n'a pas été fait en pensant que le Covid serait terminé, que l'épidémie serait derrière nous, qu'on repartirait là, donc, à la rentrée? Or, on est en pleine deuxième vague. Comment concilier et comment inciter à la confiance qui est inhérente à ce plan de relance que vous nous décrivez avec la restriction des activités, la prudence et le fait que les gens n'ont pas confiance en ce moment ?
Moi, je crois que ce plan de relance, c'est à la fois un plan de relance et un plan de transformation en réalité. C'est un plan d'accélération, de transformation de notre économie, soutien à l'emploi, relocalisation d'activités dont on a besoin. Je pense qu'on peut faire les deux. Je pense qu'on peut soutenir et transformer l'écologie, l'économie avec une vision écologique, notamment en accompagnant des secteurs qui sont en capacité de se développer et de se transformer. Et ça ne nous empêche pas de prendre les mesures sanitaires dont on a besoin. Il va falloir qu'on vive avec. Il va falloir qu'on fasse avec le virus. Mais on va vivre avec longtemps, on va faire avec
Emmanuel
longtemps.
Barron, une question très concrète, vous êtes en charge du logement, la trêve hivernale. Est-ce qu'avec cette crise, sanitaire, elle pourrait être prolongée, éviter les expulsions.
Vous avez raison, c'est une de mes obsessions. Nous avons prolongé la trêve hivernale jusqu'au 2 juillet dernier. Vous savez, la trêve hivernale, normalement, ça s'arrête fin mars. Elle a été prolongée jusqu'au 2 juillet. Et nous avons décidé, et c'est quelque chose que je fais appliquer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination, de ne pas avoir d'expulsion locative après la trêve hivernale, donc après le 2 juillet, s'il n'y a pas de solution pour les personnes. On ne peut pas mettre à la rue des personnes en pleine circulation du virus. Et c'est ce que les préfets font, et j'ai des conférences téléphoniques avec eux très régulièrement, et je suis département donc par département, région par région. Donc nous avons limité énormément les expulsions locatives, et ça va aller jusqu'à la prochaine trêve, qui commence le 1er novembre. Mais le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe le 31 mars prochain, le 31 mars 2021. Et du coup, j'ai mandaté un député pour travailler avec moi, Nicolas Desmoulins. Il a été mandaté par le Premier ministre sur la prévention des expulsions locatives. Parce que le sujet, c'est comment on accompagne les Français qui vont avoir du mal à payer leur loyer là maintenant pour éviter que des défauts de loyer s'accumulent pendant les 6 à 9 mois qui viennent et que ça amène à un besoin d'expulsion massif. Donc c'est une obsession de faire en sorte qu'on prévienne ce risque, qui est un vrai risque. J'en discute avec les associations parce que je pense que c'est un sujet très important.
Alors vous avez eu une autre casquette, environnement, on vous connaissait comme ça dans le précédent gouvernement et vous êtes sous la tutelle de Barbara Pompili. Là en ce moment il y a tout le débat sur les néonicotinoïdes, la suspension pour les betteraviers. Comment faire en sorte que le gouvernement soit enfin crédible sur ces histoires d'environnement? Parce qu'à chaque fois, on arrive au moment de l'obstacle, et ben, y a un recul. En gros, c'est la perception qu'on a.
La crédibilité, c'est la capacité à faire. Mmh. C'est pour ça que dans mon secteur, et je vais vous répondre sur les betteraves, dans mon secteur, moi, mon objectif, c'est de faire, et c'est de faire avec deux guides, l'efficacité d'un côté et la justice sociale de l'autre. Et je pense que pour les betteraves, c'est pareil. Il y a une interdiction générale des néonicotinoïdes. On arrive à un moment où la préparation du secteur a été insuffisante. On peut le déplorer, on n'a pas les alternatives. On
est confronté. Faute peut-être au gouvernement ?
La faute à tous les acteurs, peut-être à la recherche qui n'a pas les éléments, à la filière qui ne les a pas absorbés, au gouvernement qui n'a peut-être pas suffisamment suscité la filière. En tout cas, on en est là. Et quand on en est là, on a une décision à prendre, là encore, en responsabilité. Est-ce qu'on laisse cette filière mourir, sachant qu'il y a les betteraviers, que derrière il y a l'industrie sucrière, ou est-ce qu'on dit on se laisse encore une toute petite période de temps pour affronter le problème sur le sujet de la betterave? Et donc on accepte de lever une interdiction de façon extrêmement ciblée sur une seule agriculture pour une durée courte. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça aurait été mieux de ne pas en arriver là? Oui. Une fois qu'on est confronté à la difficulté, on limite la question. Et là, notre responsabilité, notre engagement, c'est de faire en sorte qu'à la fin de la levée de la restriction temporaire, on ait une solution pour la betterave qui protège l'environnement. Et dans ce cas-là, on aura avancé, parce qu'on aura rendu réelle la sortie des néonicotinoïdes.
On se retrouve pour continuer à discuter sur les autres sujets de l'actualité. A tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Ça s'est passé vendredi dans la rue qui abritait les anciens locaux de Charlie Hebdo, une attaque contre dirigée contre ce journal. On écoute, on regarde.
On passe tous les jours devant les plaques commémoratives, etc. Donc c'est peut-être pas présent tous les matins quand on se lève, mais c'est quelque chose qui est en nous et qu'on n'oubliera jamais.
Ça fait de la peine. Ça fait de la peine pour la France, ça fait de la peine pour les concitoyens.
Emmanuel Wargon, on a sous-estimé la protection de cette rue. Nicolas Appert a dit Gérald Darmanin. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé la menace globalement avec la tenue de ce procès, Charlie Hebdo?
Moi, je suis très frappée par ce qui s'est dit pendant ce procès. Et évidemment, on a cet attentat et je voudrais dire un mot de compassion pour les victimes et saluer les forces de l'ordre qui se sont engagées. Ce procès, c'est le rappel de cette menace qui, en fait, est très forte. Et cet attentat, c'est le rappel de cette menace. Il y a une menace au cœur de notre société, en France, de gens qui veulent toujours s'attaquer à ce qui fait le cœur de ce que nous sommes, le cœur de la République, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, la liberté d'être soi-même, la liberté de penser et de dire ce que nous voulons dire. Cette menace, elle est toujours présente. Et moi, quand je vois la polémique autour de laquelle dire republier les caricatures, finalement, c'est faire de la provocation. Ça me scandalise.
Vous
quand
visez
je
qui,
vois.
Là vous visez qui,
mais il y a encore eu une déclaration ce matin ou hier disant on aurait pu éviter l'attaque si on n'avait pas republié les caricatures. Il faut republier les caricatures.
L'esprit Charlie n'est plus là.
Nous sommes Charlie, moi je suis Charlie. J'ai d'ailleurs dit aussi que j'étais Mila.
Dans la classe politique et même dans l'opinion, cet esprit de janvier 2015, il n'est plus là.
Moi je pense que cet esprit est encore là et que notre combat c'est de le faire vivre. Avec Charlie, avec Mila, hein, cette jeune fille qui parce qu'elle a eu des propos qu'elle a le droit d'avoir et sous protection policière et ne peut plus aller à l'école, il faut remettre nos valeurs au centre. La liberté d'expression, le droit de dire ce qu'on pense, même si les autres ne sont pas d'accord,
c'est le droit au blasphème. Le droit au blasphème. Il y a eu un appel de la part de l'ensemble des organes de presse, justement, pour alerter sur cette liberté d'opinion et d'expression qui serait en danger. Vous pensez la même chose? Vous avez le sentiment aussi aujourd'hui qu'en France, on peut être en danger de vie ou de mort par ces paroles, par les paroles que l'on peut prononcer?
Mais malheureusement, en France, quand on prononce des paroles qui déplaisent, y compris des paroles qui sont considérées par certains comme un blasphème, on peut être mis en danger. Et c'est le cas de Mila. C'était le cas, enfin, c'est ce qui s'est passé avec cet attentat, puisque cet attentat, c'était une forme de, entre guillemets, attaque à la liberté d'expression. Il faut que nous défendions cette liberté d'expression, il faut la chérir, c'est ce que nous avons en commun, ce sont nos valeurs, c'est la laïcité. Donc moi, je suis à fond pour cette défense. Peu importe ce qu'on pense de ces propos, c'est pas le sujet. On a le droit de les dire.
D'ailleurs, pour prolonger ce que vous dites, selon l'information, la journaliste Zineb El-Razoui, ex de Charlie Hebdo, menacée de mort depuis plusieurs jours, a été discrètement reçue vendredi par le ministre de l'Intérieur et par Marlène Schiappa. C'était donc la veille de l'attentat. Jeudi, elle a été reçue. Sa protection a été renforcée. Donc on voit bien qu'effectivement, ça paraît toujours compliqué d'avoir des propos libres en ce moment. Cécile Cornudet.
Vous comprenez pourquoi le président de la République n'a pas réagi publiquement à cet attentat et même pas par un tweet, alors qu'en général, il fait ça très, très rapidement.
D'abord, le président a appelé les familles de victimes. Et ensuite, vous savez qu'il s'exprimera sur le sujet du séparatisme dans quelques jours. Et du coup, je suppose
vendredi.
Que sa réaction sera plus globale parce que, bien sûr, on est tous émus à juste titre. Mais après, la question qui nous est posée, c'est quelle réponse politique, quel soutien à la liberté d'expression, quelle lutte contre ce séparatisme islamiste, contre cette radicalisation. C'est là aussi que nous sommes collectivement attendus. C'est là que nous devons, encore une fois, prendre nos responsabilités.
Vous le dites, en fait. C'est le séparatisme, en fait, il vise tout simplement cette partie de l'islam radical, politique, qui vise à se séparer de la République. On a le sentiment qu'il y a une prudence officielle vis-à-vis de cette définition.
Moi, je dis, il ne faut pas confondre nos compatriotes de religion musulmane qui, tous les jours, pratiquent leur religion de façon libre, comme dans n'importe quel pays, et une forme d'extrémisme islamiste dont l'objectif est de refuser les lois de la République et de forcer la République à renoncer à ses valeurs. Et moi, je ne veux pas qu'on me force à renoncer à la liberté d'expression. Je ne veux pas qu'on force les femmes à renoncer à mettre une jupe. C'est insupportable. Nous avons le droit de vivre comme nous voulons dans un pays libre. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ceux-là doivent accepter les lois de la République.
Alors, de l'autre côté, que répondez-vous à ceux qui disent « Mais ma liberté, c'est aussi de porter un voile parce que ma religion me le demande. » Est-ce que vous considérez que c'est aussi une liberté qu'il faut respecter ?
Mais moi, je soutiens la liberté de porter le voile, c'est-à-dire le foulard qui cache les cheveux dans l'espace public. En revanche, la burqa, vous savez, ce voile intégral qui cache tout, ça, c'est attentatoire à la liberté des femmes. Et dans ce cas-là, ça n'a pas sa place dans l'espace public. Et c'est un débat qui a eu lieu, qui a été tranché.
Par exemple, lorsque, il y a quelques jours, la dirigeante de l'UNEF, qui est voilée, s'est présentée à l'Assemblée nationale, ça a provoqué des tensions. Des députés, d'ailleurs, de plusieurs partis se sont levés en disant que c'est une atteinte à la laïcité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous seriez parti ?
Je pense que c'est un cas vraiment limite, en fait. Parce qu'elle portait le voile, et ça respecte les lois de la République, mais elle le portait d'une façon qui finalement, enfin, c'était une, C'était aussi une forme de provocation, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était la jeunesse face au Covid. Et donc, je ne sais pas, je pense qu'il aurait fallu être dans cette salle pour savoir comment réagir. Mais en tout cas, ce que je souhaite dire, c'est que la laïcité, c'est fondamental en France. Il faut la défendre. La laïcité, la liberté d'expression, c'est vraiment un combat que je porte profondément.
Alors, comment le faire, justement, Damien Fleureau?
Oui, est-ce que pour vraiment contrôler les financements de l'islam, il faut toucher, selon vous, à la loi de 1905?
Voilà, les travaux sont en cours et c'est sur ce sujet que le président de la République va s'exprimer.
Mais vous, votre sensibilité?
Moi, il me semble que c'est aussi le pacte républicain avec les associations à la fois de la loi 1901-1905 qu'il faut confirmer. Le pacte républicain, c'est chaque association peut agir sur le territoire français, sur le territoire de la République, si ces associations respectent nos valeurs. Donc dire par exemple pour les associations... En général, pas de subvention s'il n'y a pas une charte sur le respect des valeurs fondamentales. Je pense qu'il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être angélique sur ces sujets.
Est-ce que les associations qui sont visées souhaiteront signer ce type de charte? Est-ce qu'on ne se trompe pas, on ne se voile pas la face sur ce combat?
Moi, je pense que de deux choses l'une. Soit ces associations, finalement, acceptent de signer, et dans ce cas-là, on a des valeurs communes. Soit elles n'acceptent pas de signer, et dans ce cas-là, au moins, on a une base pour s'intéresser à leurs activités. Pour l'instant, sur la fermeture de certaines écoles qui ne sont même pas des écoles hors contrat, qui sont simplement des lieux d'enseignement dans lesquels des enfants qui sont scolarisés à la maison sont en fait accueillis, sur ce type d'école, on n'arrive pas à les fermer en dehors de raisons sanitaires. On voit bien qu'on a besoin de muscler notre réglementation.
Oui, il y a un exemple justement...
Oui, il y a un exemple à Sevran.
À Sevran,
tout à fait.
En Seine-Saint-Denis, où effectivement la seule voie de passage était... celle du contrôle sanitaire.
Quand la voie de passage juridique doit être détournée parce que la loi elle-même ne permet pas de traiter le problème, c'est la question que j'ai eue moi avec cette histoire de squat de résidence secondaire où comme il fallait changer la loi, en attendant de changer la loi, on a trouvé une voie de passage juridique détournée. Quand on en est là, ça veut dire qu'il faut changer la loi.
Cécile Cornudet.
Il y a quand même un débat, je poursuis ce que disait Damien Fleureau, sur toucher ou pas la loi de 1905. Un débat au sein du gouvernement. Vous qui êtes macroniste de gauche, comme vous dites, est-ce que c'est pour vous une ligne rouge? On peut agir sans aller jusque-là? Ou est-ce que oui, on peut toucher la loi de 1905?
Moi, je crois que les débats sont encore en cours là-dessus.
Oui, mais donc, vous pensez quoi, vous?
Mais c'est pas un sujet sur lequel j'ai une position arrêtée à ce stade, parce que je pense que c'est un sujet... complexe. En tout cas, moi, je ressens le besoin de nous armer plus. Est-ce que c'est la loi de 1905? Est-ce que c'est la loi de 1901? Est-ce que ce sont les contrôles?
C'est par le contrôle?
Mais en tout cas, je pense que nous devons nous
armer
plus parce que nous avons en face de nous des gens qui pensent que nous sommes faibles. Et c'est, la République doit montrer qu'elle est forte et qu'elle est déterminée. Je pense que c'est ça qui est important.
Mais ce débat, il doit avoir lieu officiellement dans la majorité?
Ce débat va avoir lieu, bien sûr, puisque nous aurons un projet de loi. Donc à partir du moment où nous avons un projet de loi, le débat va arriver.
Il y aura des tensions au sein de votre famille politique, à l'Assemblée
nationale.
On verra,
j'en sais rien. On verra.
Parce que justement, la difficulté, c'est d'être capable de faire passer ce projet. Or, on sent que dans la majorité qui est un peu plus organisée au Parlement, au centre-gauche, avec peut-être un problème de disposition actuellement à l'égard peut-être de l'exécutif, est-ce que ça n'est pas le débat qui va diviser encore plus la Macronie en ce moment?
Mais je ne suis pas sûre. Parce que je pense qu'en fait, même si on a plusieurs familles politiques qui soutiennent le président de la République, elles sont unies par des valeurs. Et les valeurs de solidarité, les valeurs de laïcité, les valeurs de protection de la République face aux extrêmes, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles, de familles politiques différentes, nous avons décidé les uns les autres de soutenir le président.
On se retrouve pour la dernière partie du Grand Rendez-vous avec Emmanuel Wargon.
10h, 11h. Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et Emmanuel Wargon, ministre délégué au logement. Au fond, elle peut nous dire, est-ce qu'un logement commun pour la majorité est-il possible? Mais avant ça, le président a demandé au ministre de s'engager pour les élections à venir. Que faites-vous?
Je vais le faire. Je vais m'engager pour les élections régionales en Île-de-France et plutôt à l'échelle du Val-de-Marne, qui est mon département.
Cécile Cornudet.
Et pourquoi pas au niveau de la région? On a l'impression que cet appel du président, il n'est pas entièrement suivi d'effet parce que les ministres à chaque fois disent on va plutôt conduire une tête de liste au niveau du département plutôt qu'au niveau de la région.
Moi, je pense que doucement, hein, quand même. Hein.
Pardon, la bataille régionale, c'est une bataille importante parce que c'est là que se joue en fait l'économie, le développement, l'aménagement du territoire. Après, moi, j'ai commencé mon engagement politique plutôt à l'échelle de mon département. J'ai soutenu nos candidats pendant les municipales. Et donc, pour moi, c'est la bonne échelle à ce stade. Je pense que c'est un engagement concret, terrain. Et après, le collectif est en train de se définir sur les régionales en Ile-de-France comme ailleurs.
Disons que ça ne se précipite pas au niveau de la République en marche.
On va trouver.
Pour affronter Valérie Pécresse au niveau...
On va trouver et on sera une équipe. Et une équipe qui portera un projet... Un projet qui n'est pas le même que celui de la présidente de région aujourd'hui. Et donc, ce sera une bataille d'idées et ce sera intéressant.
Mais à quelle échéance? Parce qu'on le voit, les présidents de région sortants, Valérie Pécresse, mais aussi Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, sont déjà en campagne et ne se cachent pas.
Bon, c'est relativement rapide maintenant. C'est l'affaire de quelques jours ou de quelques semaines. Après, la campagne n'a pas démarré. Et je pense aussi, pour revenir aux discussions du début, que les Français n'ont pas totalement la tête à la campagne des régionales. Entre la question de la crise sanitaire et le plan de relance, je pense qu'on a d'autres sujets à ce stade que la campagne des régionales.
Ça, c'est l'argument général que nous disent les responsables politiques quand on leur parle des élections. Mais enfin, les Français adorent la politique et surtout posent à chaque fois la question: comment ça va se passer? Qui va gagner? Qui va nous diriger?
Donc elle est aujourd'hui, c'est les légitime. Sénatoriales. Donc j'ai une pensée pour Sébastien Lecornu et aussi pour François Patria qui se présente.
En période de réserve, il faut les...
Pardon.
Effectivement. On attendra ce soir pour voir si les vœux ou les vôtres, en tout cas, sont exaucés. On verra bien. En tout cas, ce que l'on comprend, c'est qu'au fond, vous êtes aussi un petit peu en mutation. Vous êtes arrivé de la société civile, comme beaucoup de vos collègues. Vous deviez changer la politique. Et puis le président qui vous dit, prenez des mandats, faites comme tout le monde. Retour au vieux monde.
En fait, la question que vous posez, c'est quoi l'engagement politique et finalement, pourquoi on sait les gens de la société civile engagés en politique? Moi, je viens de la société civile. En fait, je viens de l'administration. J'ai été haut fonctionnaire, j'ai dirigé des administrations pendant une vingtaine d'années. Et j'ai vu à la fois ce qu'on peut y faire et les limites. Et les limites, c'est que les administrations, en fait... elles répondent aux orientations du politique. Et c'est normal, c'est sain, on est dans une démocratie, encore heureux que les administrations fassent ce que le politique leur demande. Et c'est pour ça que je suis passée du côté politique. Je suis passée du côté politique parce que je pense que la France est devant des changements importants et assez difficiles à réaliser, le changement écologique... Et repenser nos solidarités, parce que nos solidarités fonctionnent plus très bien.
Quand vous faisiez le RSA avec Martin Hirsch sous Nicolas Sarkozy, vous faisiez déjà de la politique.
C'est vrai, et je faisais de la politique comme directrice de cabinet. Et en fait, moi, mon expérience, c'était en partie en administration et en partie en cabinet. Et quand vous êtes en cabinet, vous servez un homme politique ou une femme politique avec lequel vous êtes en accord. Si vous voulez développer vos propres idées, si vous voulez conduire vous-même le changement... Il faut s'engager en politique.
Alors à propos d'engagement, d'idées, on sent que les sujets dits de gauche, vous avez plus de mal à les porter. Il y a un exemple là très intéressant sur le bien-être animal. Au début du quinquennat, vous étiez plutôt allant. Et là, finalement, le Journal du Dimanche annonce aujourd'hui que sans doute le gouvernement va bouger cette semaine là-dessus. Mais il bouge en défensive parce qu'il y a une initiative de référendum partagé qui marche bien. Parce que Cédric Villani se saisit de la question. Est-ce que ce n'est pas dommage que sur des sujets comme ça, où vous aviez un peu une préscience, eh bien finalement, vous soyez en défensive?
En fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de voix issues de la gauche au gouvernement, autant que de voix issues de la droite. Après, on a probablement un problème d'équilibre dans la balance du son entre les deux haut-parleurs. Peut-être que parfois, on entend plus le haut-parleur de droite et moins le haut-parleur de gauche. Mais en fait, on est beaucoup à être...
C'est pas une question d'haut-parleur, c'est une question de politique portée, là.
Mais dans les politiques portées, il y a eu beaucoup d'avancées sociales et sociétales. Enfin, on peut parler de la PMA qui a été adoptée. On peut parler du reste à charge zéro en optique et en dentaire. On peut parler de l'augmentation du minimum vieillesse.
Mais la question de Cécile est de dire...
On a eu beaucoup de mesures qui sont des mesures politiques.
La question, Cécile,
qui sont des mesures politiques vis-à-vis des plus défavorisés. Donc, on ne peut pas dire que la politique qu'on mène est déséquilibrée. La politique qu'on mène, c'est les solidarités d'un côté... la transition écologique et l'appui sur l'économie de marché. Et c'est ça
avec
qui nous définit fondamentalement.
Avec des sujets de société que parfois, peut-être, vous sentez un peu moins. Je reprends la question
animal.
De Cécile.
Après,
le bien-être animal, par exemple, est un sujet extrêmement puissant au sein de la société. Il n'est pas porté par le gouvernement.
Non, ce que je veux dire avant d'arriver au bien-être animal, et je vais vous répondre, c'est que ce gouvernement, il porte autant de mesures et de visions qui sont issues d'une pensée social-démocrate ou de gauche que d'une pensée plus libérale. Et que c'est la force d'Emmanuel Macron d'avoir fait une nouvelle synthèse entre les deux. Et donc la critique disant finalement ce gouvernement est parti très
Macron
vers la droite,
n'est pas de droite,
moi il me semble, quand on regarde le projet politique, et c'est bien de la politique dont je parle, hein, en fait il est plus équilibré que l'impression qu'il peut donner. Après, le bien-être animal, je ne sais pas si c'est un sujet de droite ou de gauche, c'est sûr que c'est un sujet sociétal, c'est sûr que c'est un sujet qui monte, moi j'y suis sensible aussi, c'est un sujet dont on va s'emparer, donc c'est un sujet sur lequel on fera des propositions.
Oui, il y a un autre sujet, une annonce faite par le président de la République sur le congé paternité, doublé hein, pour tout le monde. C'est le social, justement.
Et ben,
pour
justement,
Emmanuel
nous
Macron,
y voilà.
Qui bénéficie aux classes moyennes, aussi à ses électeurs. Est-ce que c'était vraiment la priorité du moment? Est-ce qu'il y avait une demande?
Mais est-ce qu'il y a un bon moment pour faire des avancées sociales? Est-ce qu'il n'y a pas
non,
toujours
il y a
quelqu'un
peut
qui
y
vous
des
dit
priorités,
c'est pas le moment Barbeau. De faire des
le
progrès sociétaux?
Le patronat demande un aménagement parce que c'est pas le moment.
Et
en
ça, plus, parfois, c'est une vraie avancée. C'est une vraie avancée pour les classes moyennes, c'est une vraie avancée pour les enfants. Je vous rappelle que c'est né d'un rapport de Boris Cyrulnik sur la résilience et sur la construction dans la prime enfance et dans les 1000 premiers jours. On sait qu'en fait, on est très, très déterminé par nos 1000 premiers jours. Et il n'y a pas pire déterminisme que le déterminisme social. Et après, vous mettez des années et des années à combler ce que le déterminisme social vous a imposé. Un enfant qui naît, il a autant de chances que les autres, mais selon là où il est né, bien sûr, où elle est née, ça ne va pas se passer de la même manière. Là, on n'impose pas grand-chose aux entreprises. On impose 7 jours obligatoires, mais c'est toujours uniquement 3 jours payés par les entreprises. Et après, tout le reste est payé par la solidarité nationale. Donc, je comprends que les entreprises disent « ça va un peu nous désorganiser, ça ne va pas peser sur les coûts des entreprises ». Mais c'est une belle avancée sociale. Et moi, je crois qu'il faut qu'on se réjouisse quand on a des belles avancées sociales. On est là aussi pour répondre aux enjeux de société. Et moi, je pense à ces enfants et à ces pères qui vont nouer une relation qu'ils n'auraient pas nouée spontanément. Parce que dans le modèle classique, maman reste à la maison après la naissance et papa retourne travailler.
Est-ce que ce n'est pas une mesure pour les premiers de cordée, ça? Est-ce que tout
simplement
dans
les
foyers où il
faut
aller travailler?
Mais non, je ne crois pas.
Au
contraire, qui prend les congés paternité aujourd'hui?
Est-ce que ça peut être compliqué à faire passer?
Qui prend les congés paternité? C'est les gens qui peuvent, c'est aussi les classes les plus favorisées. Là, donc, l'idée, c'est que ça soit démocratisé.
Donc, ça sera évidemment pris en charge par la collectivité,
oui, c'est pris
par
en charge
le budget.
Par la sécurité sociale.
500 millions par an, hein, ce congé paternité. Est-ce qu'une fois de plus, ça va suffire?
Est-ce que c'est le bon moment? Oui, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour faire ça et que quand on est prêt à faire une avancée sociale, il faut la faire. Est-ce que les montants seront suffisants? On verra bien. En tout cas, c'est un droit, donc il sera financé.
Daniel Floreau.
Oui, alors, on le voit, et le président de la République, vous dites qu'il cherche un équilibre, ni de droite, ni de gauche, ou est de droite et de gauche. Tout de même, est-ce que vous n'avez pas l'impression que d'ici la fin du quinquennat, il faudrait le recentrer? Et c'est d'ailleurs un peu votre initiative, Territoire de Progrès, avec d'autres membres du gouvernement, Olivier Dussopt, Jean-Yves Le Drian.
Elisabeth Borne.
Territoire de Progrès, c'est une initiative politique pour montrer que ces valeurs de solidarité et d'ailleurs aussi des valeurs autour de l'initiative locale, parce qu'il y a vraiment un intérêt pour les questions de décentralisation aussi, sont des valeurs qui sont au cœur du projet présidentiel et du projet de la majorité. C'est aussi une initiative pour ouvrir un espace de débat avec des élus qui peuvent se rejoindre dans ces valeurs et donc la capacité peut-être à avoir une majorité la plus large possible.
Pour faire revenir des électeurs de gauche qui sont partis, toutes les études le montrent, ceux qui ont aidé Emmanuel Macron à être élu en 2017 ne sont plus là, n'entendent plus, ne veulent plus l'attendre. Comment vous allez faire revenir l'électorat de gauche vers le président de la République?
Mais c'est l'action qui prime. Et donc, quand on parle du congé paternité, encore une fois, c'était une volonté depuis longtemps et ça a été fait. C'est aussi un espace de débat que nous créons avec des élus de différentes sensibilités pour porter un projet et pour enrichir le projet de la majorité.
Claude Chirac hier a dit il faut un candidat de la droite et du centre. Donc, ce ne sera pas Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, il était candidat pour être un candidat du dépassement de ses clivages.
Et il n'est pas dépassé
et
par le dépassement.
Le dépassement, ce n'est pas l'effacement des valeurs, ce n'est pas on n'a plus de programme, on n'a plus d'idées. Le dépassement, c'est dire je suis européen, mais je soutiens aussi l'économie de marché, je suis libéral sur les questions économiques, mais je considère que les questions sociales sont importantes et la solidarité doit être au cœur de notre projet. Et l'écologie, ça va nous forcer à tout bouleverser. En gros, c'est ça notre équation. Et cette équation-là, elle sera portée par le président.
Est-ce qu'on peut être rempart deux fois ? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'est inévitable qu'il soit face à Marine Le Pen ?
En tout cas, moi, le sens de mon engagement, c'est montrer qu'on peut transformer sans aller vers la démagogie, vers les extrêmes et vers les extrêmes qui fracturent. Moi, c'est ça mon angoisse, une fracturation totale de la société, démagogue et populiste. C'est parce que je veux lutter contre ça que je suis là aujourd'hui.
Merci, c'était le grand rendez-vous d'Emmanuel Wargon. À dimanche. Europe 1.